L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 12h52. Nous sommes le 29 mars 1971. Dans quelques instants, la cour du tribunal de Los Angeles va condamner à mort Charles Manson et les quatre assassins de l'une des actrices les plus connues au monde, Sharon Tate. Un an plus tard, cette peine sera commuée en prison à vie. Et bien qu'il soit décédé dans sa prison d'État en 2017, Charles Manson, le gourou de la famille, comme on l'appelait, continue de hanter l'imaginaire collectif. Retour aujourd'hui sur le procès le plus coûteux de toute l'histoire des États-Unis, qui s'est tenu au cœur d'une Amérique post-hippie, traumatisée par les agissements de Charlie et de sa bande de détraqués. Nous sommes le 29 mars 1971. Il est 13h28. C'est l'heure H de mon histoire. Dans une salle bondée où la fumée de cigarettes peine à passer par les fenêtres semi-ouvertes qui donnent sur l'un des parcs de la ville de Los Angeles, la tension est à son paroxysme. Les jurés s'apprêtent à rendre leur verdict. Accusé, levez-vous. Un sourire narquois en coin, Charlie Manson saute d'un bond sur ses deux pieds. Avec un mimétisme aussi malsain qu'impressionnant, les trois autres accusés lui emboîtent le pas. Dans le couloir, derrière la double porte massive en pin de la salle où tout le monde est regroupé, résonne le dernier titre des Doors, Riders on the Storm, autrement dit, les conducteurs sous l'orage. Tout ça semble presque écrit à l'avance, tant les huit derniers mois de ce procès ont tenu en haleine le pays tout entier. Cela a coûté une fortune monumentale et provoqué un raz-de-marée émotionnel chez tous ceux qui l'ont suivi, tant les accusés se sont donnés en spectacle. L'esprit de Woodstock est déjà loin et la décennie qui s'ouvre claque la porte au nez des hippies et de ce qu'ils peuvent représenter. Avant de prendre la parole, le président de la cour fixe une dernière fois celui qui, pour lui, représente l'incarnation du mal absolu. Chétif, désormais chauve depuis sa dernière lubie capillaire, arborant fièrement son nouveau tatouage représentant une croix gammée au milieu des deux yeux, Manson n'est plus l'homme qu'il était au début des audiences. À l'époque, ses cheveux longs, hirsutes et sa longue barbe lui donnaient presque un air prophétique. Aujourd'hui, il est tombé dans le ridicule morbide cultivé par sa folie. Dans ce procès, Tate LaBianca, du nom de deux des victimes, on y décrit les bains de sang et même l'éventrement d'une femme enceinte. Le procureur, qui a l'estomac bien accroché, n'avait encore jamais vu ça durant sa longue carrière. En 8 mois, ils ont tous tenté de comprendre la logique de cette famille qui vit dans un ancien décor western de cinéma au milieu du désert de Californie. Très rapidement, l'homme de loi ventripotent qui a taché sa chemise juste avant son entrée en salle d'audience s'est rendu compte combien il était impossible de comprendre ces gens. Du moins, en étant sain d'esprit. Retenant un reflux gastrique venu du fond de ses entrailles, le président se lève enfin, aveuglé par les flashs des journalistes qui le collent comme une nuée de mouches qui volent autour d'un cadavre. Pourtant, il le sait bien, ils sont là pour Charlie. Le trentenaire dans le box des accusés, à peine plus haut qu'un mètre 57, lui adresse un sourire aussi malicieux que perfide. Le président de la cour se racle le fond de la gorge et prend enfin la parole. Le cérémonial peut enfin commencer. Quelques minutes plus tard, la sentence tombe dans un brouhaha indescriptible. Les appareils photo crépitent. Les familles des victimes applaudissent. Le public hésite entre stupeur et soulagement. Et déjà la presse cherche à attirer l'attention du gourou pour capter sa réaction. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas être déçus. Dans son box, Charles Manson et ses quatre disciples viennent d'apprendre qu'ils sont condamnés à mort. Avant d'être évacués de la salle pour être remis en cellule, Manson se met à rire. Ah, ce n'est pas un rire classique, non. Pas un rire comme celui que vous pouvez avoir, vous et moi, non. Ce rire-là, il est caverneux, machiavélique. Il semble venir du fond des âges, du tréfonds des enfers. Comme de parfaits perroquets. Les trois superbes jeunes femmes qui ont commis les crimes affreux dont on les accuse tentent de l'imiter. Mais leurs regards ne trompent pas. Elles sont terrifiées. La perspective de la chaise électrique désarçonne même un démon. Et puis, même le procureur qui vient d'entendre le verdict comme les autres ne peut pas s'empêcher d'avoir un peu de pitié pour elles. Bon, après tout, elles n'ont été que la main armée d'un fou qui les a convaincues de l'imminence d'une révolution. Quittant le tribunal cet après-midi-là et en rentrant difficilement dans sa Cadillac flambant neuve, le procureur ne cesse de se repasser le film des 8 derniers mois du procès. Il en est tout à fait persuadé. Charles Manson n'est pas la réincarnation du Christ comme il le prétend. Mais il pourrait plutôt être celle d'un archange déchu, Satan. Nous sommes le 24 juillet 1970. Il est 10h. Aujourd'hui s'ouvre un procès hors norme qui promet de défrayer une chronique qui, depuis la mort tragique de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, n'a jamais cessé de s'enrichir. Le procureur, les cheveux gominés et plaqués en arrière, à la tenue impeccable, fait son entrée. Dans le box des accusés, il se trouve face à trois jeunes filles, souriantes, chantant des morceaux de musique hippie de la fin des années 60. Très honnêtement, elles ne semblent pas du tout réaliser la gravité de leur situation. Derrière elles se trouve leur maître, hirsute, la main dans sa barbe qui, lui, dont son regard perçant, provoque immédiatement celui qui incarne l'injustice des États-Unis. Envoûtant, ses deux yeux se plantent dans ceux du procureur pour l'analyser en profondeur. De peur de laisser transparaître une quelconque émotion, ce dernier détourne le regard. La chaleur étouffante de ce début d'été à Los Angeles et la densité de la foule, compacte dans la salle exiguë du tribunal, donnent à cette journée une ambiance particulière. Manson a été arrêté le 12 octobre 1969 au cœur de la Vallée de la Mort, au Ranch Barker. Cependant, son inculpation est à ce moment-là encore uniquement liée à un vol de voiture qui a eu lieu durant l'été. Ce ne sont que quelques mois plus tard que sa figure sera associée au meurtre dont on l'accuse. Au mois de novembre, alors qu'elle est retenue pour d'autres charges, une des jeunes femmes de la famille avoue à une codétenue qu'elle a participé au meurtre de Tate et de ses amis. Pire encore, elle révèle l'existence d'une liste noire composée de cibles potentielles. Parmi elles, tenez-vous bien, Steve McQueen, Sinatra, Elizabeth Taylor ou Tom Jones. Toutes ces personnalités ont les mêmes profils, les mêmes points communs. Ils sont célèbres, font partie de l'establishment et surtout, ils sont blancs. Tout s'accélère ensuite. Un visiteur de son ranch durant l'été 1969 rapporte les propos de Manson qui se serait vanté d'avoir tué 5 cochons la nuit précédente. Quelques jours plus tard, un biker fréquentant la famille au Span Ranch, accusé de meurtre, conclut un accord avec l'État de Californie pour témoigner contre Manson et ses disciples. La procédure peut donc s'ouvrir et quelques mois plus tard, le procureur est assigné à l'affaire. C'est la première étape vers la mise en place du procès qui s'ouvre aujourd'hui. Les premiers jours n'apportent que peu de réponses. Charlie et les autres accusés restent campés sur leur position. Mais, vous allez le voir, cette affaire hors norme est remplie de rebondissements et de contre-pieds. Le premier et principal d'entre eux arrive durant l'été 1970. Un juge de Californie offre à Linda Casabian, un membre actif de la famille Manson, l'immunité en échange de son témoignage lors du procès de son ancien gourou. Elle accepte. Elle accepte et avoue avoir été présente lors des meurtres de Tate et des époux LaBianca. La réaction des accusés à cette nouvelle est tout à fait surprenante. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de Linda, leur seule réponse est qu'ils la trouvent magnifique, très jolie. Et que leurs sentiments envers elle sont bons. Afin de couper court aux questions des journalistes, Manson, totalement illuminé, ne cesse de se jouer de la presse et des jurés. et plus personne n'est dupe. Le gourou se rend compte que les événements lui échappent et que le témoignage de son ancienne disciple met à mal sa défense et celle de ses co-accusés. La solution lui apparaît alors comme une évidence. Témoigner. Cependant, sa manœuvre est un échec, tant il ne parvient pas à convaincre de son innocence, bien au contraire. Une de ses déclarations peut même être interprétée comme un aveu de culpabilité. En effet, il déclare « Les enfants qui viennent vers vous avec des couteaux sont vos enfants. Vous leur avez appris. Je ne leur ai pas appris. J'ai juste essayé de les aider à se tenir debout. » Le procureur, lorsqu'il entend ces paroles, n'en croit pas ses oreilles. Comment cet homme peut-il, avec autant d'aplomb et de confiance, justifier de tels actes ? N'y tenant plus, lors du contre-interrogatoire, il demande au chef de meute s'il se considère comme le Christ. Pour seule réponse, Manson lui adresse un sourire carnassier. 10 jours plus tard, coup de théâtre ! L'avocat de la défense ne se présente pas au tribunal comme de coutume. Curieusement, il ne refera jamais plus surface et de suite, les partisans de Manson, qui sont encore en liberté à l'extérieur, sont suspectés de l'avoir éliminé. Cependant, sans preuve et sans découverte du corps, impossible de les accuser. Cette disparition choque la cour, les jurés et les suiveurs de l'affaire, qu'ils soient civils ou journalistes. Même si le diable est maintenant derrière les barreaux, personne n'est pour autant en sécurité. Son influence totale sur ses disciples est particulièrement inquiétante pour la sécurité des participants. Dans ce cadre, les mesures de sécurité sont renforcées. Le mois de décembre est consacré au dernier témoignage, même si le plus fort d'entre tous reste celui de Linda. Déjà, le procureur prépare en réalité son dernier coup de maître. Il a étudié de fond en comble la psychologie de Charles Manson. La clé pour les faire accuser était là. Ramener ce procès à une simple affaire de meurtre, c'était leur donner une chance, et surtout à lui, d'échapper à la peine capitale. Le problème majeur pour l'accusation, c'est que Charlie ne se trouvait sur aucune scène de crime. Il faudrait donc plaider l'influence. Le fait que Manson, s'il n'a pas tenu une seule des armes, n'en est pas moins le commanditaire, le penseur. Depuis l'ouverture du procès, le procureur prépare ce moment qui semble prévu pour le début d'année 1971. Sa plaidoirie va avoir un rôle capital pour convaincre les jurés des terribles agissements de cet homme qui, pour le moment, n'apparaît pas encore comme le monstre sanguinaire qu'il est réellement. L'erreur a été aussi de le classer parmi les tueurs en série classiques. Il n'en est rien. Manson est un cerveau, créateur d'un culte aussi morbide que paranoïaque. Il est faux de penser qu'il a attiré à lui uniquement des gens à faible quotient intellectuel ou perdus dans leur vie. Certaines des accusées présentes autour de lui au procès se destinaient à de superbes études. Mais alors, que s'est-il donc passé ? Il encourage, il convainc et il manipule grâce à une aura supérieure. Un charisme déroutant qui force les gens à lui obéir aveuglément. Voilà la faille qui va permettre de le faire accuser. Sortant du tribunal en ce mois de décembre particulièrement froid pour la Californie, il s'arrête dans son diner préféré manger des œufs brouillés et boire une tasse de café. Il sort son calepin de sa sacoche et commence à énumérer les éléments de la psychologie de l'accusé. La clé de déchiffrage du code secret de la famille leur a été donnée par Linda. Il s'agit de « Helter Skelter ». C'est une chanson de l'album blanc des Beatles, un titre en particulier qui porte ce nom. Littéralement, les paroles renvoient aux difficultés que peuvent rencontrer les gens qui s'aiment, mais Manson interprétait les paroles d'une toute autre manière. Pour lui, elles annoncent l'imminence d'une révolution afro-américaine, celle d'un peuple qui finirait par prendre le pouvoir. Alors, la seule manière de l'éviter, eh bien, c'est de tuer des personnes blanches, célèbres, et reporter la faute sur le dos des Afro-Américains. Là, Là, selon lui, la communauté blanche se tournerait vers lui comme vers un messie. Une guerre raciale apocalyptique, si vous préférez. En prenant une gorgée de son café chaud, il renverse quelques gouttes sur les mots qu'il vient de transcrire. Maugréant, il reprend une feuille blanche et continue son énumération. Le second point, c'est que tout était prémédité. Ce projet à long terme de conflit racial et le fait que les meurtres aient eu lieu pendant la nuit excluent de fait le caractère impulsif de l'agression. Et on le sait, la préméditation est un argument pour plaider la condamnation à mort. C'est là que le rôle de Manson est des plus déterminants. Il parvient à placer ses disciples dans un état de ressenti émotionnel totalement nul, leur permettant d'enchaîner les meurtres et les agressions sans avoir la possibilité d'analyser ou de comprendre leurs actes. Ils sont la main, il est la tête. Les nombreux experts qu'il a pu entendre tendent à montrer que la frustration et la colère sont les éléments fondateurs de la personnalité du gourou. Il a subi une enfance dans la violence et la pauvreté. La négligence des services sociaux pour le sortir de là a fini de le pousser vers la criminalité pour survivre. Ce cocktail les plus explosifs a irrémédiablement conduit vers la mégalomanie, la psychopathie, le tout accompagné d'un trouble anxieux majeur. Mais de cette faiblesse, il créa une force, celle de contrôler émotionnellement les gens. Voilà le point de naissance de cette famille, se dit le procureur en avalant ses œufs déjà froids. À l'extérieur, une pluie fine s'est mise à tomber et les gens dans la rue se précipitent dans les magasins et les espaces intérieurs afin de pouvoir s'abriter. Au loin, un arc-en-ciel se profile déjà à l'horizon. Régulièrement, au milieu d'affaires exceptionnelles et difficiles comme celle-ci, le procureur ressent ce besoin de se couper du reste du monde et d'entrer en introspection avec lui-même. Les fêtes de Noël se préparent. Et cette année, il les passe dans le Colorado, chez les parents de sa femme, Suzy. Ils y vont avec leurs trois enfants. Depuis le début de cette affaire, c'était particulièrement difficile de rentrer et de reprendre le rôle de papa et de mari, sans être affecté par ce qu'il entendait toute la journée. Chaque témoignage, chaque intervention des accusés chargeait sur ses épaules un peu plus le poids de l'horreur et de l'insécurité. Là, dehors, parmi les gens qui trempent leurs tailleurs et leurs trench, marchent peut-être des sociopathes, des meurtriers en puissance, ou pire encore, des gourous. Chassant cette idée de son esprit, il commande de nouveau des œufs brouillés à la petite serveuse qui fait le service du mardi soir. Bientôt, il rentrera chez lui et minimisera auprès de sa femme les horreurs qu'il a entendues toute la journée. Les fêtes de Noël passées, il devra se concentrer à nouveau sur cette plaidoirie, aussi décisive que terrible. Il faudra aussi l'introduire avec une partie qu'il déteste d'avance devoir écrire. La description des meurtres.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Charles Manson. Bien que n'ayant pas lui-même assassiné les victimes dans cette affaire de meurtre, les parties civiles et l'accusation le considèrent comme premier responsable, tant son influence sur les membres de sa famille est prépondérante. Et se profile maintenant le réquisitoire tant attendu du procureur qui se veut déterminant pour entériner la condamnation des accusés. Nous sommes le 15 janvier 1971. Il est 11h22. Le procureur a passé de bonnes vacances de Noël au cœur du Colorado. Sa belle famille a tenté tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse se vider la tête. Mais pour autant, il a rêvé chaque nuit de ce moment qui s'annonce. Lentement, il se lève. La chaise crisse au sol. Le bruit résonnant dans une salle comble, mais silencieuse au possible. Tous le regardent, y compris Manson. Ces deux petites billes rondes pointées en direction du procureur. Les trois femmes au premier rang des accusés, elles, sourient, presque naïvement. La plaidoirie commence. Et d'une voix blanche, les mains légèrement tremblantes, l'orateur prend la mesure de la salle, la parcourt du regard, place la tonalité avec laquelle il va parler et se lance enfin, presque naturellement. Il avait 6 ans lorsqu'il a dit pour la première fois à ses parents qu'il voulait défendre les méchants. Aujourd'hui, c'est pour condamner le mal absolu qu'il se bat. Lentement, mais avec passion et gravité, il plonge, et toute la salle avec lui, au fin fond des 2 nuits d'horreur provoquées par les disciples de Charles Manson. Ce dernier continue de le regarder, presque possédé. Revenons donc au 9 août 1969, aux premières heures de l'après-minuit, au 10 050 Chelyo Drive, Los Angeles. La nuit est douce et le parfum des fleurs qui jalonnent le quartier embaume la camionnette aux fenêtres grandes ouvertes. À l'intérieur, 3 occupants fument, l'air grave, et écoutent le dernier titre de Jimi Hendrix. Parmi eux, Linda Casabian, celle qui témoignera bientôt contre ses ex-camarades. Le chauffeur est le bras droit de Manson. Il est déjà venu repérer les lieux la semaine précédente. Le scénario est bien ficelé. Les 2 filles doivent passer par un poteau téléphonique pour entrer dans la propriété. Ils sont certains de trouver leur cible à l'intérieur, un certain Terry Melcher, désigné par Manson. Et l'ordre du chef est clair. Tuer tous ceux qui seront à l'intérieur, sans aucune pitié. Funeste sort pour tous ceux qui s'y trouvent. La véritable cible, Melcher, a déménagé quelques mois plus tôt. Afin d'éviter le portail électrique ou l'alarme, le petit groupe se sert du poteau électrique et d'un talus broussailleux pour entrer. Alors que les 2 jeunes femmes sont dans le buisson, arrive une voiture, conduite par un jeune homme de 18 ans. Le 3e comparse, le bras droit de Manson, se précipite sur lui, le mettant en joue avec son calibre 22. Le conducteur le supplie de lui laisser la vie sauve, promettant de ne rien dire, mais le criminel lui tranche les tendons de l'avant-bras au couteau avant de faire feu à 4 reprises. Après avoir poussé la voiture de la victime un peu plus loin, les 3 assaillants entrent dans la villa. L'homme en y brisant une vitre et les 2 jeunes femmes ensuite par la porte d'entrée. Dans la maison, tout le monde dort. Le calme dans le salon est olympien. Seul résonne le tic-tac de l'horloge posée sur le buffet. Les habitants de la maison sont 4 ce soir-là. D'autres invités ont décliné au dernier moment, notamment Steve McQueen ou Quincy Jones. L'un des occupants, Frykowski, est un coiffeur de star, ancien amant de Sharon Tate. Il dort sur le canapé, bercé par la pendule. Alors que le bras droit de Manson chuchote à l'oreille de Linda, il se réveille. D'instinct, le criminel le frappe à la tête et alors que la victime demande qui sont ces gens, il lui répond instinctivement « Je suis le diable et je suis ici pour effectuer le travail du diable ». Bientôt, les 4 occupants, dont Sharon Tate, sont regroupés dans le salon de la résidence. Elle est attachée par le cou avec une corde pendue à une des poutres du plafond. Sous ses yeux, elle voit mourir un par un ses 3 amis. Frykowski, qui a tenté une sortie, s'est fait rattraper et s'est fait tirer dessus à 2 reprises. Il est poignardé au visage. Un autre est conduit dans une chambre pour se faire d'abord vider son portefeuille qui contient 70 dollars. Il est ensuite poignardé. Une amie de Sharon Tate, aussi présente, a réussi à s'évader, mais elle est rattrapée dans le jardin. Elle sera poignardée à 28 reprises. Linda Casabian ne participe pas au meurtre. Elle surveille. Au milieu du salon, attachée, enceinte de 8 mois et demi, Sharon Tate pleure. Cette jeune femme, actrice à succès, mariée à Roman Polanski, l'un des réalisateurs les plus en vogue d'Hollywood, a tout pour elle. Magnifique blonde de plus d'1,70 m, son talent l'a propulsée tout en haut de l'affiche. Oui, mais voilà. Le destin la rattrape, fonçant sur elle avec la vitesse d'un aigle sur sa proie. Sharon supplie de toutes ses forces les tueurs de la laisser vivre jusqu'à son accouchement pour son bébé. En vain. Sous les yeux de Linda, l'inéluctable se produit et le macabre commando la poignarde à 16 reprises. Au milieu des hoquets, Ted continue d'implorer, gémissant. Manson a demandé qu'on laisse une trace de sorcellerie sur les lieux. Une des jeunes femmes qui vient de tuer l'actrice s'empare d'un de ses liens en tissu, qui la retenait prisonnière, le trempe dans le propre sang de Sharon Ted qui agonise et écrit le mot « pig » en lettres capitales sur la porte d'entrée. Les tueurs iront ensuite se débarrasser dans les collines alentour des vêtements et des armes. Lorsqu'il termine le récit de cette première nuit d'effroi, le procureur ne peut s'empêcher de jeter un bref regard vers le monstre Manson. Et ce dernier lui sourit. Il semble presque heureux et attentif à l'histoire qui lui est racontée. Pour les autres personnes de l'assistance, jurés et public, c'est l'horreur qui domine. Le procureur remarque les hauts de cœur, les larmes des parties civiles, les regards de haine qu'on lance aux accusés. Mais ce n'est pas encore terminé. Manson et les siens sont aussi responsables de deux autres meurtres, ceux des époux LaBianca. Lino LaBianca n'est pas producteur de cinéma, il n'est pas acteur non plus, il est simplement gérant d'une immense chaîne de supermarchés. Il est marié à Rosemary, qui est avec lui cette nuit-là. Nous sommes le lendemain du premier carnage, le 10 août. Il est 1h du matin. Sharon Tate n'est pas encore enterrée que déjà, les tueurs reprennent la route. Cette fois, Manson est dans la Ford Blanche, accompagné de son fameux bras droit, des trois filles avec qui il comparait pendant ce procès, et Linda Casabian. Ils sont six, donc. À 1h30, leur choix s'arrête sur une grande maison blanche, voisine d'un lieu de fête que Manson avait connu en 1968. Le couple, qui dort profondément, va bientôt connaître l'horreur. Le mari dort sur le canapé du salon. Il est réveillé en sursaut par Manson et son bras droit qui le ligote mais le rassure en lui certifiant qu'ils n'en veulent qu'assez bien. Il demande si quelqu'un d'autre est dans la maison et sur les indications du propriétaire, ils sont conduits dans la chambre de sa femme. Manson la réveille à son tour, accepte qu'elle enfile une robe par-dessus sa chemise de nuit et empoche au passage tout l'argent liquide qui se trouve dans la maison. La femme est ensuite renvoyée dans sa chambre, escortée par le bras droit, qui lui enfile une taie d'oreiller sur la tête et lui glisse le fil d'une lampe autour du cou. Totalement paniquée, elle s'agite, mais Manson lui demande gentiment de rester calme avant de quitter la maison. Celle par qui vient l'horreur ce soir-là entre par la même porte quelques minutes plus tard. Il s'agit de l'une des jeunes femmes présentes la veille chez Sharon Tate, accompagnée d'une nouvelle venue qui comparaît également aux côtés de Manson au tribunal. Elles ont toutes deux à peine 22 ans. Elles sont envoyées par le bras droit dans la chambre pour surveiller la femme, alors qu'il s'occupe lui-même du mari. Ce dernier est poignardé au couteau deux fois. Rosemary, aveuglée par la taie d'oreiller, entend son conjoint hurler et se lève, en portant avec elle la lampe dont elle a le fil autour du cou. Les deux jeunes femmes, paniquées, appellent leur complice à l'aide. Il abandonne sa victime au rez-de-chaussée, en sang, mais toujours vivante, et monte. Là, il poignarde Rosemary jusqu'à ce qu'elle tombe. Elle sera victime en tout de 41 coups de couteau portés par ses trois agresseurs, les deux jeunes femmes s'amusant à la lacérer. Une fois ces atrocités effectuées, les trois criminels redescendent. Au rez-de-chaussée, ils trouvent Leno qui se vide de son sang. Il pleure. Il réalise le sort qui a été réservé à sa femme. Il est alors victime de 8 coups de couteau supplémentaires. Et l'une des jeunes agresseuses le transperce même de coups de fourchette et de 4 coups de couteau à la gorge. Les instruments resteront plantés dans le corps du pauvre homme lorsqu'il sera découvert par ses enfants le lendemain. Cette fois, le mot « war » est gravé sur son ventre, au couteau de cuisine, et les assaillants écrivent « mort au porc et lève-toi » sur le mur avec le sang de leur victime. Helter Skelter, d'après la chanson des Beatles, est retrouvé, mal orthographié sur la porte du frigo. Linda, elle, est restée pour faire le guet à la porte encore une fois. Le plus sordide est sans doute ce qu'il se passe une fois les meurtres perpétrés. Très loin de se sauver les jambes à leur cou, les tueurs restent dans la maison, jouent avec le chien du couple, regardent la télévision, mangent ce qu'ils trouvent dans le réfrigérateur et vont même se doucher avant de faire du stop et de rentrer au ranch, l'air de rien. Lorsqu'il termine enfin son récit, le procureur sent des larmes monter malgré lui. La fille du couple s'est évanouie dans la salle et de nombreux autres visages anonymes sont pâles comme la mort. Charles Manson, lui, rit aux éclats dans son box. Si l'émotion l'assaille, l'homme de loi est au moins certain d'une chose à la fin de sa plaidoirie. Il a démontré que la famille et son leader sont les suppôts de Satan, ceux du mal absolu. D'après lui, un seul remède pour éradiquer cette folie. La chaise électrique.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de l'un des plus grands criminels des États-Unis, Charles Manson. Après un procès douloureux qui reste encore aujourd'hui le plus cher de toute l'histoire du pays, le dernier plaidoyer du procureur saisit des mois la salle et les jurés. Tout le processus judiciaire touche à sa fin. Et la nation tout entière attend de connaître la peine à laquelle les accusés vont être condamnés. 10 jours après la fin de ce discours qui entre dans l'histoire judiciaire du pays, le 25 janvier 1971, tous les accusés sont reconnus coupables de meurtre au premier degré. Pour eux, 2 options, la prison à vie ou la condamnation à mort. Le 29 mars, le couperet tombe. Manson et les 3 jeunes femmes qui l'accompagnent sont condamnés à la chaise électrique. En octobre de la même année, le bras droit de Charlie est reconnu coupable et condamné à mort pour 7 meurtres. Le chef de la secte est envoyé dans le couloir de la mort et Linda Casabian est bel et bien amnistiée en échange de son témoignage qui fut capital dans l'instruction. Cette affaire n'en est pas à un rebondissement près qui continueront les années suivantes. À peine 1 an après la condamnation de tous les participants de l'affaire, la Cour suprême de Californie déclare la peine de mort anticonstitutionnelle. Et d'office, la sentence de Manson et celle de ses co-accusés est commuée en peine de prison à vie. Le gourou quitte le couloir de la mort et est transféré au sein du pénitencier de Folsom. Tout au long de sa vie, il va fréquenter d'autres établissements. Dès que ce sera possible, il va s'évertuer à demander des libérations conditionnelles, et ce, près de 11 fois. À chaque fois, la réponse est la même. Refus catégorique de la part des juges. Lors de sa 9e audition, en 1997, il ira jusqu'à déclarer qu'il ne nie pas son implication, mais qu'il n'a pas brisé les lois divines. Cela ne l'empêche pas d'être beaucoup plus explicite lorsqu'il donne des interviews à la presse. En 1988, il profère des menaces en direct à la télévision. Il compte tuer le plus de monde possible. La fin de sa vie approchant, il se marie avec une jeune femme qui fait changer son nom en celui de Star Manson. Il a alors 80 ans, elle 26. Ils ont commencé à entretenir une relation épistolaire alors même que la jeune femme était encore mineure. Elle se fait raser la tête à sa demande, se fait elle aussi tatouer la fameuse croix au milieu du front, mais lorsque Manson apprend qu'elle souhaite avant toute chose récupérer son corps après sa mort pour l'exposer dans un musée, il ne va pas au bout de la procédure d'union. En effet, les lois californiennes stipulent que le conjoint est en droit de récupérer le corps de son époux ou épouse. 3 ans plus tard, en 2017, Manson meurt de cause naturelle à l'hôpital à l'âge de 83 ans. Son corps est remis à son fils qui en fera disperser ses cendres. « Les autres membres de la famille qui ont été condamnés en même temps que lui ont connu des destins bien différents. L'une d'entre elles, celle qui participe activement au meurtre de Ted, s'appelle Susan Atkins. Elle a 19 ans au moment des meurtres. 3 ans après sa condamnation, elle se repentit et se convertit au catholicisme après avoir, selon elle, vu le vrai Jésus-Christ apparaître dans sa cellule. Elle rédige son autobiographie, donne des cours en prison et s'implique dans la vie de celle-ci. Elle se marie 2 fois. La deuxième, avec l'un de ses avocats et tente à maintes reprises de sortir de prison elle aussi, sans succès. En 2003, paralysée d'un côté alors qu'on lui prédit qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre, elle demande la compassion des juges. C'est de nouveau un échec. Elle se considère durant les dernières années de sa vie comme une prisonnière politique. En 2008, elle est atteinte d'une tumeur au cerveau. Elle décédera l'année suivante et selon son mari, son dernier mot aura été « Amen ». Cathy, quant à elle, a aussi été condamnée à mort lors du procès. Souvenez-vous, c'est elle qui a joué de la fourchette sur le corps mourant du pauvre Leno LaBianca. Elle est aussi présente lors de l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis et y participe, sans néanmoins toucher à l'actrice. Durant le procès, alors que Suzanne passe son temps à rire et pouffer, Kate, elle, dessine des diables et des symboles sataniques à la vue de tous. Pendant de longues années, elle reste fidèle aux idéaux de la famille avant de s'en détacher et d'obtenir un diplôme à l'université. Tout comme Atkins, elle participe à des programmes pour améliorer la vie de la prison, donne des cours de poésie, de guitare, de chant et même de volley-ball. Elle est toujours emprisonnée aujourd'hui et détient le record de la femme la plus longtemps incarcérée en Californie. La 3e condamnée du procès s'appelle Leslie Van Houten. Elle n'est pas présente la première nuit des meurtres, mais le sera lors de l'assassinat des époux LaBianca. Elle ne parvient pas à attirer l'attention de Manson. Et elle expliquera après le procès que cela l'a rendue folle, au point de vouloir lui prouver qu'elle était prête à tout pour lui plaire. Son attitude lors du procès est fustigée de toutes parts. Elle rigole, chante et semble totalement droguée. Elle avoue être sous l'emprise du LSD à l'époque des crimes. Elle est toujours en prison et est âgée aujourd'hui de 72 ans. Et le bras droit de Manson, vous vous souvenez? Celui qui se prenait pour le diable, venant effectuer son travail. Son nom est Tex Charles Watson. Il n'est pas jugé en même temps que les autres accusés puisqu'il fuit le ranch pour n'être arrêté au Texas qu'en novembre 1969. Au début de son procès, il ne parle plus, ne mange plus et perd plus de 25 kilos. Il se convertit lui aussi au christianisme, publie son autobiographie, se marie et devient le père de 4 enfants. Il est diplômé en 1981 d'une école de management et devient même pasteur. Toutes ses demandes de libération conditionnelle ont été refusées. Et il est toujours emprisonné aujourd'hui, à l'âge de 76 ans. Pour finir, évoquons le cas de la seule graciée de la bande, Linda Casabian. 2 jours après la 2e nuit des meurtres, elle retourne dans son état d'origine, le New Hampshire. Immédiatement après sa collaboration avec la justice qui lui vaut son immunité, elle émet des regrets qui paraissent sincères. Son court séjour chez Manson, moins de 4 semaines, lui a sans doute évité d'être totalement sous l'emprise, malgré une addiction au LSD. Devenant une célébrité, elle clive l'opinion et disparaît avec son mari et ses enfants, quittant une nouvelle fois la Californie pour le New Hampshire. Elle rejoint une communauté hippie pendant quelques années avant de se reconvertir en cuisinière. Il faut également préciser que si ces personnes ont été au centre de l'attention, puisqu'elles ont participé au meurtre et ont été condamnées, la famille ne se résumait pas qu'à eux. De nombreux disciples de Manson ont continué après le procès à vivre ensemble, à écouter ses préceptes et suivre ses volontés. La figure de Charles Manson est à bien des égards toujours au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, il est presque devenu une figure de la pop culture. Il est représenté dans le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ou encore dans la série Mindhunter, la saison 7 de la série horrifique American Horror Story, met également en scène le meurtre de l'actrice Sharon Tate. Le personnage de Manson en est la figure centrale. Les interventions de Manson après sa condamnation lui ont permis de devenir une allégorie moderne du croque-mitaine, alors que sa folie meurtrière peut être résumée en une de ses citations restées célèbres. Il a dit ceci: « Je suis un gueux, un clochard, un vagabond. Je suis un wagon et à la fois un pichet de vin. Et je peux aussi être une lame de rasoir si jamais vous vous approchez trop près. » Une chose est certaine, le monde se porte mieux depuis que cette incarnation du mal est décédée. Voilà donc pour cette histoire à glacer le sang que j'ai eu le plaisir de vous partager en collaboration avec Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.